Une heure plus tard, le président recevait dans ses appartements privés son conseiller scientifique, tout en se changeant pour partir en week-end à Camp David. Briefé par Antonio, il masquait à grand-peine l'excitation de gamin que son conseiller média le dissuadait d'arborer dans les situations de crise. Héros de l'Amérique aux Jeux olympiques de Pékin, médaille d'or en triple saut, Bruce Nellcott passait injustement pour un crétin à cause de son physique avantageux, mais il en jouait avec finesse et manipulait à leur insu tous ceux qui pensaient le tenir sous influence. En prenant sa retraite à 25 ans, il avait eu le choix entre le cinéma, la publicité ou la création d'une ligne de sportswear. Antonio avait préféré la politique et l'avait fait élire sans trop de mal gouverneur du Kentucky. Ensuite, grâce aux inculpations qui décimaient le camp républicain, la course à l'investiture n'avait été qu'une formalité, mais Nellcott n'entretenait aucune illusion sur les raisons de sa victoire. Fidèle au slogan « L'Amérique qui gagne », sa campagne avait matraqué son palmarès bien davantage que son programme. Depuis, face à la récession, il avait su conserver une popularité relative en tâchant de ménager la Chambre des représentants, où il était minoritaire, sans mécontenter le Sénat qui le soutenait du bout des lèvres. Lucide sur ses moyens comme sur ses ambitions, il avait entrepris de forger une Amérique à son image, svelte et jeune, bout en train et généreuse. Le désastre que cette politique de Boy Scout avait entraîné à l'extérieur lui faisait constamment rechercher un enjeu, un symbole fort derrière lequel abriter sa fibre humanitaire sans passer pour un dégonflé auprès de ses forces armées, de ses alliés comme de ses adversaires. Catholique fervent, le retour du Messie aurait évidemment constitué pour lui un très bon fer de lance, mais Nellcott s'efforçait de rester circonspect. « Je n'ai jamais cru à cette histoire de Jésus cloné sous Clinton », fit-il en dénouant sa cravate. « Pour moi, c'était du même tonneau que l'assassinat de Kennedy ordonné par Johnson. L'implant extraterrestre dans le cerveau de Gerald Ford, le scénariste de Reagan dirigeant la guerre froide, le commando de médium détruisant mentalement les missiles coréens, le virus de la grippe aviaire introduit en Chine par la CIA ou les soirées sadomaso à la Maison-Blanche. Toutes ces fadaises glissées dans les archives pour discréditer mes prédécesseurs.
Je pensais comme vous, monsieur, concernant le projet Oméga. Mais le docteur Sandersen est hélas une sommité dans sa partie. Et s'il affirme être en mesure de prouver l'origine, l'identité, la bonne santé d'un clone de plus de 30 ans issu d'un sang bimillénaire, nous nous devons de vérifier ses dires.
Et d'éviter qu'il n'exploite un tel mythe à des fins personnelles, acheva Nellcott en déboutonnant sa chemise. Mais je ne comprends pas d'où vient le sang en question. Le suaire est une peinture de Léonard de Vinci, non ?
Irwin poussa un soupir. Depuis l'arrêt des examens scientifiques décidés par le Vatican, officiellement pour protéger l'icône contre les contaminations bactériennes et les risques d'incendie, la version en vogue dans les médias était celle d'un autoportrait de Léonard. Une poignée de chercheurs discrédités avaient ressorti en pure perte leurs analyses et datations. Dans la flambée anti-religieuse née du combat des musulmanes qui avait renversé peu à peu les dictatures islamistes, le monde ne voulait plus entendre parler de merveilleux, de miracles, de superstitions, de fanatisme en puissance. Et quand les sectes avaient repris le pouvoir, grâce à la corruption et aux guerres mafieuses qui avaient fleuri sur la tombe des mollahs, toute la communauté scientifique internationale s'était dressée dans un dernier élan d'espoir illusoire contre la renaissance des cultes et le retour de l'idolâtrie. Seul le biologiste Andrew McNeil, retraité de l'université de Princeton, continuait dans l'indifférence générale à sillonner la Terre pour diffuser les dernières nouvelles du linceul. Datation par les pollens de Cistus creticus, Gundelia tourneforti et Zygophyllum dumosum, trois variétés de plantes ne poussant que dans la région de Jérusalem. Analyse suggérant que l'image était due à une réaction thermonucléaire. Mise au jour de textes occultés par l'Église, retraçant l'historique du linge, sa conservation par les apôtres, la manière dont il l'avait transféré à Édesse, plié en quatre pour ne laisser voir qu'un visage imprimé, afin de contourner l'interdiction juive de vénérer une étoffe devenue impure après son contact avec un mort, son séjour à Constantinople et Athènes sous le nom de Mandylion, et sa réapparition en France à Lirée dans le butin de la quatrième croisade. Mais le plus extraordinaire était l'expérience menée à l'Institut d'optique d'Orsay, où le professeur Marion avait mis en évidence, par traitement numérique, sous l'image de Jésus, des inscriptions grecques et latines signifiant « Nazaréen ».« Je me sacrifie, tu iras à la mort », l'être formé par la roussissure des fibres au moment du flash thermonucléaire. Quand MacNeil, ployant sous le poids des arguments, parlait d'un complot du Vatican pour censurer les preuves de la résurrection, on mettait ses propos sur le compte du gâtisme. Lorsqu'il ironisait dans ses conférences sur l'hypothèse à la mode, cet autoportrait qu'aurait composé Léonard de Vinci par des méthodes secrètes de projection photographique, inventées avec 4 siècles d'avance et disparues avec lui, on haussait les épaules. Le génie toscan avait bien inventé la mitrailleuse. Et le fait que Léonard soit né 100 ans après les premières études détaillées, authentifiées de l'image du linceul, dans des documents consultables par chacun, ne déclenchait que des sourires indulgents. On sait bien qu'on fait dire tout ce qu'on veut au texte. La disparition de la relique avait achevé d'éteindre la polémique à laquelle personne ne se donnait plus la peine de répondre. Si l'Église n'autorisait plus les ostensions ni les expertises, disait-on, c'est qu'elle avait peur de la vérité. Un cardinal avait d'ailleurs déclaré, après le dernier incendie, « Quel dommage que ce drap n'ait pas brûlé, cela aurait mis un terme aux querelles. » Escamoté dans un conteneur blindé rempli de gaz inerte, le faux supposé était à l'abri désormais de tous les dangers extérieurs, sauf l'oubli. Personne n'avait pris au sérieux les cris d'alerte poussés par MacNeil, affirmant que le stockage du linceul dans une atmosphère dépourvue d'oxygène, censée réduire les risques de combustion, entraînait la prolifération de bactéries vertes et pourpres qui risquaient de le digérer petit à petit. La pétition lancée sur Internet pour le sauver de cette autodestruction à huis clos n'avait recueilli que 900 signatures. MacNeil en était mort, et Irwin, qui avait si souvent douté, ne savait plus que penser depuis qu'il s'était remis à croire. Je vous ai posé une question. Glasner revint au présent, le crâne dans un étau. Le président était vêtu maintenant d'un polo vert et d'un blouson andin. Non, l'image n'est pas de Léonard de Vinci, monsieur, si vous le dites. Et le sang attribué au Christ, vous l'avez analysé personnellement ? Irwin, qui se refusait à convaincre avant d'avoir acquis une certitude, éluda la question. L'urgence est de vérifier la réalité du clonage, monsieur le président, et d'essayer de savoir comment le sujet a pu dépasser l'âge de 3 ans, record de survie jusqu'à présent. L'interrogation sur l'origine de son ADN, avec votre permission, nous verrons cela plus tard. Bruce Nelcott se planta devant lui et posa les mains sur ses épaules, le visage grave, les traits tendus, l'œil bas, comme sur les images d'archives qui le montraient en pleine concentration avant un triple saut. Irwin, vous connaissez les vrais chiffres de la dénatalité. Je ne sais pas si ce sont les hamburgers d'OGM ou les ondes téléphoniques, mais le sperme américain est une catastrophe. Ce n'est pas mieux ailleurs, monsieur. Je sais, les importations ne suffisent plus. Le regard dans le vide, le président observa un silence douloureux. Lui-même avait voulu donner l'exemple en essayant, depuis 3 ans, de procréer in vitro avec une volontaire de l'armée. Antonio en faisait autant de son côté. Leurs gamètes congelées n'ayant pas encore réussi une insémination, ils restaient représentatifs de la situation d'échec rencontrée par 60% des couples américains et seraient probablement battus à la prochaine élection en tant que tels. Quand je pense que tous les experts nous ont préparés depuis 50 ans au ravage de la surpopulation, à moins d'un conflit nucléaire qui n'a même pas eu lieu. À moyen terme, sans le clonage, nous courons à l'extinction, oui ou non ? J'estime que le clonage ne sera jamais une solution d'avenir, monsieur, sans quoi l'évolution n'aurait pas opté pour la reproduction sexuée. Je vous donne carte blanche pour négocier avec Sandersen. J'ai vu des reportages sur lui. Il n'en parle pas, mais je suis certain qu'il a trouvé la solution miracle pour augmenter l'espérance de vie des clones. S'il veut nous vendre Jésus, c'est un produit d'appel. Il remonta la fermeture éclair de son blouson, vérifia dans la glace le sourire cynique que lui faisait travailler son conseiller média, puis redevint lui-même, anxieux, vulnérable, optimiste. Quêtant un écho, la voix vibrante, il lança par-dessus son reflet « Je suis d'origine irlandaise, Irwin. Je n'aime pas qu'on plaisante avec le Christ, mais, franchement, si Dieu s'est laissé cloner sur le sol américain, ça signifie quelque chose, non ?» Irwin s'abstint de répondre qu'à ses yeux de méthodiste ballotté entre les dogmes et la science, Jésus de Nazareth n'était pas forcément d'essence divine, pas plus qu'un clone n'est la copie obligée de son donneur de noyau. Emmenez Claiborne avec vous pour les questions juridiques. »
Il hocha la tête, souhaita bon week-end au président et regagna le placard jaune dans lequel les républicains l'entreposaient pour conserver les voix de la communauté scientifique depuis son prix Nobel 2002 portant sur la reprogrammation du noyau somatique. C'était toute l'histoire de sa vie, ça. Avoir été couronné pour les recherches qu'il était en train d'interdire à ses pairs en tant que rapporteur de la commission anticlonage instaurée par George W. Bush.
Irwin s'allongea sur le vieux Chesterfield défoncé datant de Buddy Kupperman, puis téléphona au Memorial Hospital. Il joignit son chirurgien et lui dit que, pour raison d'état, il était contraint d'ajourner l'opération prévue la semaine suivante. Sa tumeur attendrait.